Fabio Benoît, bonjour.
Mais bonjour.
Fabio Benoît, vous publiez la troisième partie de ce triptyque, un triptyque qui n'a pas de nom, on va peut-être en parler après. Donc après Mauvaise Personne, Mauvaise Conscience, voici donc L'Ivresse des Flammes, c'est aux éditions Favre, toujours un roman policier, et cette fois-ci avec un thème autour du feu, ce qui est un peu un chef-d'œuvre pour le narrateur, puisque ce feu, dit-il, le fera sortir de l'ombre. Alors oui, première question, est-ce que ce triptyque a un nom pour vous ?
Ben disons qu'après Mauvaise Conscience, Mauvaise Personne, je voulais un petit peu terminer cette histoire de Angel, cet homme qui s'était réfugié en Suisse parce qu'il avait été poursuivi par la mafia. Et puis oui, ce nom de L'Ivresse des Flammes évoque quelque chose, c'est vraiment l'histoire d'un pyromane. Et puis l'histoire fait une bascule entre le présent et le passé de Angel, cet homme qui essayait de refaire sa vie en Suisse. Pourquoi j'ai un petit peu changé de nom ? C'est que ça se voulait un petit peu une différence. On voit dans l'écriture déjà que le fait de faire des allers-retours entre la Sardaigne quand l'auteur était jeune et puis la Suisse quand maintenant il évolue sous un autre nom, eh ben c'est un peu une autre histoire, une autre thématique que les deux précédents livres, même si ça met on va dire en scène le même principal auteur.
Alors on va parler du commissaire Marco qui va mener cette enquête avec Nina, puisque au départ ce sont effectivement des incendies criminels qui ont sévi, on ne sait pas au départ si c'est le même incendiaire qui a sévi à la fois en Suisse et en France.
Exactement, mais L'Ivresse des Flammes, c'est avant tout l'histoire d'un homme en colère, celle d'Angel justement, qui pourtant rêve d'une vie tranquille. Il est confronté lui-même à des incendies à répétition qui sont commis par un mystérieux pyromane dans une région glaciale qu'on appelle la Sibérie de la Suisse. Et puis cet homme va sortir de l'ombre et puis va mener une enquête parallèle justement à Marco. Marco, le commissaire de la police judiciaire de Neuchâtel, qui est le patron de cette boîte, qui a des gens très compétents qui travaillent avec lui, notamment Nina. Nina, cette enquêtrice qui est surnommée le Pitbull. Et il fait appel aussi à une psychocriminologue, Marianne, une Canadienne, qui, elle, fait le profil psychologique de l'auteur.
Alors, c'est là vous mettez effectivement l'accent aussi sur ce métier de profiler.
Oui, parce qu'en fait, le souvenir, c'est comme une trace. On parle souvent d'ADN, on parle souvent d'empreintes digitales, des moyens très, très techniques, très scientifiques, et on oublie que le souvenir, c'est également une trace. Et si on le récolte mal, eh ben, on va le perdre, et puis on va fausser des preuves. Donc, cette psychocriminologue est là pour bien comprendre ce que les gens ont vu, ce que les gens ont entendu, et puis de faire un profil en se disant « Mais pourquoi ce pyromane agit maintenant ? Pourquoi cette période ?» Et puis, en fin de compte, est-ce qu'il n'y en a qu'un de pyromane ? C'est le boulot de Marianne.
Alors, on revient aussi avec un peu des allers-retours. C'est d'ailleurs un mis comme ça dans les chapitres. D'un seul coup, on voit un chapitre avant. Et avant, donc, on arrive en Sardaigne et on découvre qu'Ephisio dans un monde de bergers.
Effectivement, donc l'histoire est truffée d'allers-retours et puis on comprend pourquoi. Ephisio, c'est Angel quand il était gamin. Ces allers-retours, le passé et le présent d'Angel, on le retrouve donc adolescent et jeune adulte dans une Sardaigne qui est violente. Il était confronté aux agissements sanguinaires de ses parents. Il découvre qu'en fait, ses parents, qui croyaient simplement agriculteurs, qui avaient des terres et qui se battaient pour leurs terres, ben, ils n'étaient pas seulement des fermiers ou des éleveurs de cochons. Ils étaient également des gens issus du banditisme qui enlevaient et séquestraient dans des grottes des gens riches et puis qu'ils libéraient comme des rançons. Et ces gens-là, cette famille-là, a été violemment assassinée par la mafia qui a voulu prendre les rênes le pouvoir en Sardaigne. Donc on est confronté vraiment dans cette adolescence de Ephisio qui va être confronté comme jeune adulte à la vendetta et va devoir s'enfuir de cette Sardaigne et va retrouver la Suisse très froide, cette Sibérie de la Suisse.
Quand vous parlez de violence, c'est au-delà de la violence parce que ce qui se passe dans cette grotte, puisque ça se passe dans une grotte, ou dans des grottes d'ailleurs, c'est quand même au-delà de ce que l'on peut imaginer.
Alors c'est un protocole, effectivement, cette famille sarde a mis au point un protocole lorsqu'elle enlève quelqu'un. Ben, il faut effectivement se montrer déterminé vis-à-vis des gens qui doivent payer les rançons, et je n'ai rien inventé. Donc pour faire ce livre, je suis allé sur place, je me suis renseigné, j'ai étudié les mœurs et les coutumes. Ces bandits sardes existaient, ils agissaient ainsi, effectivement, ils mettaient des gens dans des grottes, et puis mon enquête que j'ai faite là-bas sur place m'a amené à découvrir des témoignages, notamment quelqu'un qui m'expliquait comment son oncle avait été séquestré pendant 3 mois, enlevé, et très souvent pour motiver des gens à payer les rançons, eh ben, il coupait des oreilles, des membres, et les envoyait à leur famille. Et c'est un petit peu ce côté noir de l'ivresse des flammes qui démontre comment un enfant, comment un adolescent peut être confronté aux agissements terribles de ses parents. Et malgré le fait que ses parents étaient des salauds, eh ben, ils ont quand même un côté attachant. Et Effizio va évidemment vouloir venger ses parents qui ont été assassinés par la mafia.
Alors, il y a dans ces lieux, en même temps, une sorte de transmission. C'est un lieu d'initiation, puisque le père d'Effizio et son oncle vont l'emmener pour lui expliquer, en fait, comment les hommes de la famille vivent depuis des siècles. Et devant lui, alors j'ai noté une phrase comme ça, une rançon qui n'est pas au rendez-vous, un coup de feu qui claque, de la cervelle sur le mur, tu vas devenir un homme.
Oui, effectivement, il fallait initier ce jeune homme. Qui lui était fait de rêves, qui faisait de la peinture, il vient d'un milieu, notamment Orgozolo, c'est une ville en Barbagia qui est le berceau du banditisme sarde, mais qui en même temps est une ville assez extraordinaire parce qu'elle est faite de fresques murales qui sont connues dans le monde entier, des fresques qui sont dues à des mouvements politiques de libération, justement par ces bergers qui refusaient l'État italien qui venait avec ses règles. Et ces bergers sardes, de génération en génération, transmettaient leur savoir, parce qu'il s'agit quand même d'un savoir. Il faut être au courant, il faut savoir comment enlever quelqu'un, comment le séquestrer, et aussi comment communiquer avec les personnes qui doivent payer la rançon sans se faire choper. Et pour y arriver, ben, il faut être nombreux. Pour être nombreux, on reste dans un milieu clanique. Et toute la famille a un rôle à jouer. C'était Effizio justement qui a dû apprendre ce rôle-là.
Et les incendies, finalement, c'est le point de départ.
Exactement, parce que Effizio, quand il devient plus grand et puis qu'il voit sa famille qui est massacrée et puis qu'il voit ses fermes qui sont brûlées, justement, les cadavres qui jonchent le sol, il se retrouve des années plus tard en Suisse et tout à coup l'horreur le rattrape. De nouveau ces mêmes incendies, de nouveau sur des fermes, et il se demande s'ils sont passés la rattraper, si la mafia l'a retrouvée, et il doit mener cette enquête.
Alors, Effizio, Angel, fait aussi un passage dans l'armée, dans le régiment de San Marco. Alors, je pense que ce régiment a quelque chose d'important dans.
Effectivement, San Marco, c'est un régiment d'élite de la marine italienne qui forme des gens à des techniques de combat sous-marin, mais également sur terre. Et ce régiment existe, il existe notamment à Livourne, mais également dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Et Angel a fait ses premières armes, on va dire, dans ce régiment. Là, il a développé certaines facultés des connaissances en matière de combat, et puis d'explosifs et de corps à corps.
Vous avez prononcé le mot vendetta tout à l'heure, il y a le mot omerta aussi. Et quand vous me dites que vous êtes allé sur place, que vous avez rencontré des gens, qu'ils vous ont parlé, les gens parlent ouvertement de cela?
Non, pas du tout, pas du tout. Bon, vous le savez, je suis commissaire de police
Oui,
judiciaire et
d'autant plus.
oui, mais j'ai surtout pas dit que j'étais commissaire quand je suis allé là-bas. Je me suis présenté comme plutôt un écrivain qui faisait des études sur cette mafia. Et les gens sont assez fiers de leur passé. Ils sont assez fiers de la manière dont les habitants ont résisté par rapport à l'envahisseur et la Sardaigne. Comme beaucoup d'insulaires, en fait, a toujours un petit peu résisté contre des envahisseurs. Ça date depuis des siècles. Et à un moment, l'envahisseur, c'était vraiment l'État italien. Et après, ben, cette mafia calabraise a voulu prendre des terres. Donc pour eux, dans la manière de créer le contact, ben, ça se fait petit à petit. Ça se fait par le biais du fait aussi que je comprends et puis je parle un tout petit peu l'italien. Par le fait que j'ai l'habitude de poser des questions de manière ouverte. Eh ben de fil en aiguille, j'ai trouvé quelqu'un qui était d'accord de parler. Évidemment pas un braqueur, mais quelqu'un qui était plutôt du côté des victimes.
Fabio Benoît, vous l'avez dit, donc vous êtes commissaire de police à Neuchâtel, spécialisé dans le grand banditisme. Là, on découvre aussi que les méandres de la mafia s'étendent beaucoup plus loin que peut-être ce que l'on imagine. C'est ce qu'on appelle les forces obscures.
Oui, bon, la mafia, c'est un terme très général. Ce sont des organisations criminelles qui sont structurées avec des patrons, des lieutenants, des hommes de main, chacun à son rôle. Et puis la mafia italienne, qui peut venir de différentes régions. Là, on parle de la 'Ndrangheta, qui est la mafia calabraise. C'est la mafia la plus puissante actuellement, qui a étendu ses tentacules dans le monde entier. On la retrouve, bien sûr, en France, en Suisse, en Europe, mais également aux États-Unis, également en Australie, partout. Simplement, le côté mafieux, on a toujours l'image de la violence avec des armes à feu, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi de l'infiltration dans les milieux politiques, c'est aussi de l'infiltration pour avoir des contrats de construction dans l'immobilier, c'est aussi beaucoup du blanchiment d'argent et c'est comme ça que la mafia agit à l'étranger, beaucoup moins en matière de crimes de sang, c'est plutôt en Italie où elle règle ses comptes. Mais à l'étranger, voilà, elle doit bien blanchir cet argent sale.
Oui, on sent que ces personnages, même si quelque part sont des écorchés de la vie, ils ont tous et toutes de bonnes motivations à leurs actes.
Ben en fait, je ne pense pas qu'on est salaud, on le devient avec les années. Et puis, même le pire des salauds, il a toujours une bonne raison de passer à l'acte. Le pire des salauds a également une maman qui l'aimait, des enfants, une femme, des parents. Et on peut se retrouver parfois chez un salaud en se disant, ben voilà, le monde, il n'est pas binaire, il n'y a pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Il y a juste des gens qui ne respectent pas les règles, qui ne veulent pas vivre en société pour avoir de l'argent facile et qui sont amenés à commettre des actes terribles et qui deviennent vraiment des salauds. Mais ces salauds-là, parfois, ben, on peut les apprécier, notamment dans le livre.
Comment vous les définissez, ces mafieux, et puis ces personnes, ces paysans, ces bergers qui, justement, essaient de garder une sorte de... On peut appeler ça tradition, peut-être. Comment vous les définissez?
Bon, c'est vrai qu'on parlait d'une tradition des bergers sardes criminels. À un moment, on en faisait presque des héros, alors que c'était vraiment des criminels. Et la situation en Sardaigne, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé à partir de la fin des années 90, début des années 2000, où la population s'est un peu rebellée. On a eu marre de ces soi-disant héros qui étaient quand même des criminels et qui faisaient du mal à l'image du pays, puisqu'ils commençaient à enlever aussi même des enfants qui empêchaient des fonds étrangers de venir construire des hôtels qui des fois étaient sous le coup de la mafia, des fois pas du tout. Donc il y a une évolution qui s'est faite sur l'île. Quand je discutais avec ces témoins, ils me disaient maintenant on est plus confronté là-bas à des problèmes de blanchiment d'argent plutôt que d'actes criminels et d'enlèvements sordides comme on le connaissait notamment dans les années 80.
Merci Fabio Benoît, je rappelle le titre de votre livre, L'Ivresse des Flammes aux éditions Favre. Alors bien sûr, trois parties on peut dire, mais qui se lisent totalement indépendamment, Mauvaise Personne, Mauvaise Conscience et puis L'Ivresse des Flammes, donc tous les trois parus chez le même éditeur aux éditions Favre. Alors pour celui-ci, moi j'ai lu les deux premiers avant, pour celui-ci il faut quand même s'accrocher parce qu'il y a des passages qui rappellent certains films sur la mafia où on a vu des choses assez étonnantes.
Merci, c'est vrai, mais il y a aussi pas mal d'humour, comme pourra le constater le lecteur, avec des côtés décalés justement pour rendre ces passages difficiles. Il était important pour moi de décrire ce qui existe vraiment dans la réalité. Ce n'est pas tout inventé, l'histoire est inventée, mais la manière dont se passent les choses, les raisonnements criminels, puisqu'on est dans les pensées des gens, elles sont exactes. Et pour rendre ça plus facile, il y a quand même un petit peu d'humour que vous avez peut-être perçu, qui sont disséminés ça et là au fil et à mesure des chapitres.
Voilà, ça aide à tourner les pages.
Voilà. Merci infiniment.